Du 3 au 13 décembre, hashtag 2050 le podcast, votre shoot de futur, passe en édition spéciale, ancrée dans le présent, à l'occasion de la COP25 qui se tient à Madrid. 10 jours d'une quotidienne pour comprendre la COP, découvrir les acteurs qui y contribuent, des initiatives, mais aussi entendre des voix peu entendues et pourtant engagées dans la lutte contre la crise climatique. Parce que le futur de notre planète se joue ici et maintenant. Dans les halls de la COP25, tout foisonne, j'y entends des langues connues et inconnues. On parle global et local, on parle du futur et du présent, on est contre et on est pour, on manifeste, on négocie, on écoute, on rencontre. Justement, mercredi 4 décembre, j'ai rencontré Stéphane Poufari. Avec l'Institut de l'économie positive, partenaire de cet épisode, on s'était dit que ce serait intéressant de l'entendre dans le podcast, parce que Stéphane a cofondé Énergie 2050, une association qui vise, je cite, « la grande transition », notamment en accompagnant à la fois des projets opérationnels dans de nombreux pays à travers le monde, mais aussi en aidant à la compréhension des enjeux de négociation des conférences des parties. Énergie 2050 a par exemple rédigé le guide des négociations de cette COP25 à l'attention des parties prenantes francophones. L'Institut de l'économie positive, dans le cadre de son Global Positive Forum, lance un appel à l'action en 12 points, qui sont en fait interdépendants de mon point de vue. Nous nous sommes donc dit que ce serait intéressant de converser avec Stéphane sur l'horizon 2050 et la transversalité indispensable aux transitions que la crise climatique exige. En écoutant cette conversation, vous découvrirez également ce que Stéphane pense des négociations qui sont en cours ces jours-ci et qui résultent de l'accord de Paris gagné en 2015 lors de la COP21. Vous découvrirez également ce qu'il aime ou pas dans l'idée de prospective, ainsi que son regard sur notre société qui s'émeut vite et beaucoup, mais agit peu. Nous étions assis là, concentrés sur nos micros et autour de nous, la foule des observateurs et négociateurs s'étirait de plénière, en conférence, en réunion de travail. Mais ne craignez pas l'agitation, rejoignez-nous, Stéphane et moi, nous vous avons gardé une place. Bonjour Stéphane.
Bonjour Rebecca.
Toi et moi, il fallait qu'on se rencontre parce que tu es le fondateur d'une association, d'une ONG qui s'appelle Énergie 2050. Donc avec hashtag 2050, le podcast, c'était forcément un peu écrit. Et avant de nous présenter Énergie 2050, j'aimerais que tu reviennes un peu aux origines. Tu en es le fondateur, je le disais. Pourquoi as-tu créé Énergie 2050?
Alors en fait, on est plusieurs à l'avoir créé. On était nous-mêmes des praticiens. Moi, ça fait une trentaine d'années quand même que je suis sur le terrain à faire du développement dans... parlant d'une centaine de pays maintenant. Et donc, quand on l'a créé, finalement, on a bossé pour des différentes institutions, que ce soit des institutions nationales ou internationales. Et le collectif qui était derrière, c'était un réseau déjà informel qui échangeait à l'époque sur l'énergie. C'est pour ça qu'on a gardé ce nom. Et finalement, on n'était pas tout à fait content de ce que l'on voyait un peu partout parce que on avait le sentiment que des solutions se répétaient et que finalement, et on le voit encore aujourd'hui dans l'agenda climat, mais on pourrait le voir dans l'agenda 2030 ou l'agenda urbain ou autre. Bon, finalement, on répète beaucoup de choses. Et beaucoup de voyants restent rouges, voire même deviennent un peu clignotants, rouge alerte. Et donc finalement, quand on a créé Énergie 2050, c'était parce que nous-mêmes, on était insatisfaits et on voulait retravailler de manière apaisée sur ce qu'on appelle la systémique du développement. Et cette systémique, beaucoup en parlent, mais très peu la conjuguent réellement. Et derrière ça, c'était vraiment une approche qu'on voulait, j'ai bien dit le mot apaiser, parce que finalement, dans chacun de nos métiers, on voyait des freins, et des freins qui avaient quand même des dénominateurs communs. Alors, la systémique, c'est quoi? Et c'est vraiment la genèse d'Énergie 2050. Nous, on travaille sur l'intégralité des composants du développement. C'est pas parce qu'on est ambitieux ou fou. C'est tout bêtement parce que cette transversalité, elle nous paraît indispensable. En haut de l'agenda, on met toutes les grandes conventions, mais aussi toutes les grandes thématiques, que ce soit le développement, que ce soit l'urbain, que ce soit le climat, bien sûr, maintenant, parce qu'à l'époque, c'était pas obligatoirement prégnant, mais néanmoins, c'est des sujets transversaux, la question du genre, la question, bon, toutes les grandes questions. Et pour aller dans la systémique, bien sûr qu'ensuite, on s'intéresse au sectoriel, et quand on l'a créé, on s'est dit, il faut qu'on intègre tous les acteurs, des États, en passant après aux gouvernements locaux, à l'entrepreneuriat, et ensuite le citoyen. Vraiment, c'est un grand puzzle. Et nous, on aime bien l'image du puzzle. En fait, c'est un Rubik's Cube, en fait. Et donc, du coup, quand on a créé ce puzzle, c'était vraiment quelque chose d'ambitieux. C'était cette vision-là. Et on savait pas qu'elle allait si bien accrocher. On pensait qu'on allait avoir énormément de difficultés, déjà à ce que les gens comprennent. Même si aujourd'hui, les gens entendent les mots, parce que quand on parle de l'accord de Paris, on ne parle que d'intégration, c'est clair. Enfin, on comprend qu'il faut intégrer le multithématique ou autre sous un dénominateur commun. Donc, cette espèce de grand puzzle, c'est ça la genèse d'Énergie 1050. Et je vais maintenant peut-être dire, pour finir cette première question, c'est de dire, ça correspond presque, et je vais employer un mot volontairement fort qui va faire sourire beaucoup de gens qui écouteront ça, c'est presque les thérapies personnelles, en fait. Parce que pour des vrais doueurs, comme on nous appelle, beaucoup de mes amis m'appellent des doueurs, nous, en fait, on souffre de voir l'incompétence caractérisée sur nos thématiques, qui fait qu'à un moment donné, les gens répètent des mots, mais il n'y a pas d'action concrète derrière. Et nous, on ne voit que des actions quasi concrètes sur tous les sujets. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très passionnés par ce sujet, parce que finalement, on a le sentiment de toucher la réalité du terrain, mais qui a un sens au niveau global et au sens au plus près des populations. Voilà. Voilà l'équation d'Énergie 2050.
Alors, comme tu le disais, là, on est à Madrid à l'occasion de la COP25, où il y a des attentes fortes sur un certain nombre de sujets. On y reviendra sans doute un peu plus tard. Mais toi, justement, qui es confronté depuis des années à des actions concrètes sur le terrain, y compris sur les aspects énergétiques et climatiques, dans quel état d'esprit tu es présent ici, les objectifs de l'accord de Paris? Est-ce que tu penses que le 13 décembre, on va avoir les feuilles de route précises, les engagements qui permettront de rester sous le degré 5 et en transversalité?
Alors, il y a deux questions dans la chose. Premièrement, nous, ce que l'on y fait ici, je vais juste donner parce que ça intéressera les auditeurs. Par exemple, je crois qu'on est les seuls à avoir fait 7 CPDN à l'époque, les INDC, les célèbres pour l'accord de Paris. Nous, on a trempé dans 7 INDC, donc, dont un qu'on a piloté.
Les auditeurs, donc, ce sont les engagements nationaux sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre.
Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on a trempé dans ces dossiers. On a trempé avec des États aussi dans des dossiers fonds verts. On a trempé aussi sur des plans d'adaptation, sur des programmes d'investissement vert, sur des stratégies de mise en œuvre des différentes approches sectorielles dans pas mal de pays. Donc, pour dire que les négociations, on est dedans. On a, nous-mêmes, depuis 6 ans, fait le guide des négociations climat de la francophonie. Et deuxièmement, j'ai envie de dire, on contribue aussi avec le multi-acteur à ces sujets. On travaille sur la territorialisation des engagements des États dans le cadre d'un dialogue structuré auquel on est partie prenante avec énormément d'acteurs comme la Banque africaine de développement ou d'autres. C'est qu'on est aussi partie prenante négociatrice. Quand même, on est observateur. Donc, on est là pour travailler et pour non seulement témoigner de solutions, mais aussi contribuer à l'agenda global. Tu l'as constaté dans plusieurs événements que tu as vus sur le pavillon de la francophonie, mais peut-être d'autres aussi, c'est qu'il y a une méconnaissance réelle de ce qui est en train d'être négocié par beaucoup d'acteurs, pas parce qu'ils sont mauvais, mais tout bêtement parce que c'est très complexe et cette transversalité, les gens ne peuvent pas. Il y a des négociateurs qui ne suivent qu'un sujet. Certains vont suivre Coronavia pour l'agriculture, d'autres sur le financement, d'autres. Alors pour revenir à la deuxième partie sur l'accord de Paris, qu'est-ce qu'on attend? On témoigne d'année en année de la difficulté à mettre en œuvre un accord global. Mais pas que sur ce sujet. On a oublié qu'avant les ODD, avant l'agenda 2030, il y avait des objectifs du millénaire pour le développement durable, qu'il y en a eu des tonnes. Donc, on les a tous vécus à différents niveaux les uns et les autres, et ça reste quand même des documents ou des étapes d'une mémoire et d'une histoire collective pas très glorieux. Puisque chaque fois, on a remis des documents sur la table ou des nouvelles stratégies parce qu'on n'avait pas réussi à faire la précédente. Bon, même si certains chiffres avancent, globalement, les indicateurs, dès qu'on les désagrège, ils ne sont pas bons. Donc, pour l'accord de Paris, j'ai envie de dire, on a une crise, on a plein de crises dans l'accord de Paris. On a la crise de l'ambition, alors tout le monde commence à le comprendre, et pas mal le répète, mais elle est structurelle. Elle est que même si on a fait un processus ascendant, différent du processus descendant qu'on avait dans le cadre du protocole de Kyoto ou autre, ce processus ascendant reste basé sur la bonne volonté des États, et avec certains qui ont vraiment joué le jeu, et très clairement je pense aux pays en développement, parce qu'ils ont tous fait des contributions qui maintenant deviennent déterminées au niveau national, pour le coup assez ambitieuses.
Ben oui, d'ailleurs ils vont plus loin que ce qui avait été dit initialement, et on attend les États du Nord là-dessus.
Ben, aujourd'hui, on a un problème d'ambition depuis le début. Dès lors qu'on avait déjà ces contributions prévues à l'époque, avant même la décision de l'accord de Paris, en amont, on savait déjà qu'on n'était pas sur la bonne trajectoire, plutôt sur un 3-5, voire 4, selon comment on compte. Ce qui ne faisait que confirmer très clairement le GIEC, l'IPCC, qui depuis des années, puisque les gens maintenant ont un peu d'émotion, puisqu'il y a le rapport 2 degrés 1-5, mais bon, moi j'ai été expert reviewer au GIEC sur le rapport des énergies renouvelables en 2011, tout le monde a bossé sur des documents, on sait très bien que le GIEC ne cesse de répéter la chose, et il n'y a pas que le GIEC, le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le Gap Report, Climate Tracker, nous-mêmes, on a fait des tonnes de rapports, tout le monde sait que cette réalité nous mène sur une trajectoire qui n'est pas la bonne. Donc, cette crise d'ambition pose un problème. C'est quand bien même on cherche à opérationnaliser l'accord de Paris, l'objectif de l'augmentation de l'ambition va rester sur un processus volontaire. Alors, bien sûr, il y a un processus qui nous dit on ne peut pas soumettre, et les États doivent soumettre une révision de leur contribution nationale maintenant, 2020, avec un processus global d'inventaire des émissions mondiales 2023, puis des revues toutes les 5 années. Malgré cela, il y a très peu de CDN revues qui plaident vraiment pour de l'ambition. Et effectivement, quasi aucun pays du Nord n'a vraiment augmenté son ambition. La deuxième crise, c'est le financement, qui est une crise réelle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les mécanismes de mise en œuvre. L'article 6, qui est un gros débat ici. On pourrait en parler très longuement aussi. On pourrait parler après aussi des autres sujets, l'adaptation. Les gens pensent que c'est technique. Et enfin, les gens commencent à entendre. C'est tout sauf technique, c'est politique. On est très inquiets, pour être clair. Je ne pense pas qu'on va sortir avec quelque chose qui va être super séduisant à la fin de cette COP-là, parce que c'est politique et parce qu'il y a des vrais points de blocage, avec toujours un mélange et une confusion sur plein de mots que les gens ne maîtrisent pas. Il faut voir les alinéas ou autres. Donc voilà, donc on est assez préoccupés. Il faut que les ministres comprennent que ce n'est pas des solutions techniques qu'on va leur demander. Et quand ils vont arriver dans la phase de négociation, de la validation finale des textes soumis au consensus, on doit avoir des positions fortes et qui marquent des avancées réelles. Mais si on ne répond pas aux questions politiques amont, les solutions techniques n'auront quasiment aucun sens.
Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un souci d'organisation politique des négociations? Il y a énormément de groupes pays, le G77, le groupe de l'Ombrelle, enfin, il y en a plein. Et donc, un pays peut faire partie de 5-6 groupes. Et comment on arrive à défendre une parole commune? Parce que le groupement, par exemple, des pays en développement, il y a une diversité énorme avec des enjeux très différents. Donc comment tu analyses ça, cette incapacité peut-être à avoir une vision commune?
Ils ne peuvent pas l'avoir, en fait, cette vision commune. Je pense que ça, c'est un rêve de nous humanistes, en tous les cas de moi humaniste. C'est mon rêve que les gens aient une espèce de gestion de mon père de famille des ressources et qu'on oublie aussi une fragmentation sur la base d'une pseudo-couleur de peau, d'identité culturelle ou de n'importe quoi, qui n'a aucun sens pour tous les humanistes, c'est évident. Mais néanmoins, pourquoi? Parce qu'il y a autant d'états partis que d'intérêts divergents. Et quand même, il y aura un point de convergence sur un sujet, une thématique, et bien, il faut trouver une harmonisation. Et là, on est dans le processus, mais c'est un processus onusien. Et je fais partie des gens qui le défendent, même si je rêve d'un gendarme éthique de la planète. Mais qui va l'accepter? Qui va le mettre en œuvre? Qui va le piloter? Peut-être des gens comme nous, mais ce serait presque une farce. Qui va nous valider pour qu'on valide un processus éthique alors qu'on est en capacité d'avoir une définition de ce qu'est la valeur commune? Donc, dans le processus onusien, c'est du multiparti avec ce qu'on appelle un dénominateur commun.
Ouais, et ce consensus, eh ben, il est souvent minimum.
Mais il est impossible. C'est le plus petit commun dénominateur. Quand même, on est d'accord tous pour faire une politique sobre en carbone. Regardons même chez nous. Bon, bah dès qu'on va parler de la mise en œuvre, les gens vont se battre pour une poubelle. Tout le monde va dire « je veux qu'il y ait des déchets, des ceci, des transports propres ». Qui va accepter d'avoir la station devant sa maison? Qui va accepter, même dans une copropriété, on veut passer à l'efficacité énergétique. Mais donc, on est tout le temps dans des intérêts divergents. On est dans des mécanismes où on doit agréger. Et aujourd'hui, on voit plus que les positions se cabrent, se caricaturent.
Sur la question des pertes et dommages, « loss and damage », est-ce que ça fait partie des sujets qui sont sur la table pour cette COP25? Est-ce que tu as l'impression que là-dessus, on peut avancer? Parce que à la différence des contributions nationales sur les GES, sur les gaz à effet de serre, là, entre guillemets, c'est plus simple parce que, en gros, les attentes de la société civile, c'est un fonds avec des financements qui peuvent être plus ou moins innovants. Mais de dire, il y a des pays qui sont aujourd'hui complètement déjà impactés, les populations en souffrent, doivent se déplacer, etc., pour apporter des solutions qui sont plus dans le champ de l'adaptation, d'ailleurs.
Le processus de perte et dommage est un processus fondamental. Le principe de base de la Convention climat, mais des autres conventions, des trois grandes conventions, c'est un principe de responsabilité partagée mais différenciée. Les questions de justice climatique dont beaucoup parlent aujourd'hui, les gens ne comprennent même pas pourquoi il y a des blocages. Mais le blocage, il est tout naturel. Qui dit justice climatique va dire une redevabilité de celui qui a fait. Si on avait respecté les précédents protocoles, on était sur des trajectoires de décroissance partagées, avec une espèce d'optimum, d'une neutralité carbone qui aurait pu s'organiser intelligemment. On n'a pas agi dans le bon sens. Donc, conclusion,
les pertes
on devient
redevable. C'est un constat d'échec, de toute façon.
Bah oui, ça traduit. Mais du coup, les uns les autres, on voit bien qu'il y aura du blocage. Personne ne veut entendre parler d'un cadre juridique contraignant. Donc, c'est un vrai problème. Et donc, ça va rester au principe d'intention. Et c'est des cadres qui sont vraiment bloquants, même depuis Durban. Parce que si on commence à rentrer dans du juridique, il va devoir de la compensation, du dommage. On va devoir dédommager. Personne ne veut payer. Donc, cette logique-là est compliquée. Deuxième chose, la notion de perte et dommage est très complexe. Certains pays producteurs, par exemple, d'hydrocarbures, on leur dit « attention, maintenant, il va falloir laisser les deux tiers, comme dit le GIEC, sous terre ». Mais ces gens-là disent « mais attendez, c'est mon business, moi je ne vis que de ça. Pourquoi je vais le faire? Pour le bien commun ». Pareil pour les forêts, pareil pour plein de sujets. Donc, on va se retrouver avec des acteurs très vulnérables. Eux, c'est la salinité des terres, la montée des eaux, les migrations climatiques pour des vraies raisons climatiques qui sont dramatiques. Personne ne veut partir de chez soi. Je le rappelle pour les auditeurs, ceux qui n'ont pas compris l'histoire, on leur explique de partir demain parce que la maison est fissurée, ils ne vont pas être contents. Et à un moment donné, personne n'a envie de partir de chez soi, surtout pour des questions climatiques ou environnementales. Donc, ces mêmes personnes, à un moment donné, on va mélanger dans différents paniers des gens qui, là aussi, ont des intérêts divergents. Donc, bien sûr qu'il faut un fonds. Est-ce que des moyens doivent être importants? Bien sûr. Est-ce que la question de la migration, la question des pertes et des dommages environnementaux ou humains doivent être adossés à des processus formels? Nous, on pense que ça doit rentrer dans le processus d'adaptation. Parce qu'il est très clair que ces processus-là, réhabilitation par exemple des terres, ça va séquestrer du carbone, ça va créer de l'alimentaire, ça va créer du travail, un mieux vivre, ça va freiner plein de problèmes hydriques, plein de problèmes de salinité. Donc, on ne peut pas gérer un problème, on revient à la systémique. Néanmoins, on doit des fonds. On doit mettre des fonds parce qu'il y a des situations d'urgence. Et là aussi, je pense que les gens ne le voient pas, c'est que ces situations d'urgence créent de la survulnérabilité pour les pays du Sud. Et des régions, prenons l'exemple du lac Tchad ou ailleurs, Niger ou autre, c'est des gens qui sont en train d'exploser au niveau environnemental, puisqu'ils étaient déjà en précarité, soumis à des aléas climatiques très sévères. On leur ajoute des flux de population colossaux. Donc on crée des zones de tension, qu'on ne cherche pas les questions de toutes les crises d'extrémisme qui peuvent exister. C'est dramatique, mais c'est la suite de l'histoire. Donc tout ça pour dire que oui, les pertes et dommages, c'est un processus important, mais qui doit rentrer dans un schéma global. Mais tout ça pour dire qu'une fois de plus, on ne peut pas dire ce sujet-là est prioritaire d'eux. C'est un des sujets du puzzle qui mérite de l'attention. Heureusement, il y a des gens qui travaillent sur ces sujets-là. Pas suffisamment. Il n'y a pas suffisamment d'attention. Il n'y a pas suffisamment de financement. Mais c'est le même problème quasiment comme partout.
Alors j'aime bien l'image du puzzle parce qu'en fait on voudrait que ce puzzle, on arrive à poser toutes les pièces en même temps et à trouver le dessin final, et on s'est tous lancés dans un puzzle, souvent on bloque, on met des pièces au mauvais endroit, etc. Donc l'image est assez intéressante. J'aimerais qu'on se projette un peu en 2050, parce que énergie 2050 quand même, le rapport du GIEC, etc. parle souvent de 2050, et puis notre conversation là c'est aussi dans le cadre du Global Positive Forum qui lance un call for actions avec autour de 12 grands principes, avec un fil conducteur, c'est de dire il faut absolument se replacer dans le long terme pour penser correctement. Toi, comment tu l'as, maintenant qu'on approche de 2020, l'échéance de 2050, quel sens elle a pour toi et qu'est-ce que tu projettes?
La nécessité de se prolonger dans le long terme, on est d'accord. Si je me projette sur un agenda positif dans un très long terme, 2050-2100, sans être en capacité d'imaginer l'escalier qui va faire que je vais pouvoir passer par le bas de fenêtre, je suis en train juste d'avoir une espèce de fricotage intellectuel qui est intéressant. Alors, néanmoins, il faut avoir cette projection long terme. Cette projection long terme, pourquoi? Parce que ça rappelle quand même qu'il y a une vision commune qu'on doit partager. Et cette vision, elle revient sur des principes fondateurs. Alors, on a regardé le Positive Forum. C'est pour ça qu'on est enchanté d'ailleurs de ce podcast et puis de ce qu'on pourrait même imaginer faire ensuite après avec vous. C'est que derrière ça, les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'une vision commune de long terme. Ils ont toujours tendance à penser et à projeter in fine leur propre vision. Et ça me terrorise un peu parce que si on se souvient que c'est cette propre vision du monde qui nous a amené là, j'ai tendance à dire attention. Et je rappelle même là que dans le processus onusien, comme ça je réponds très directement à la question, depuis 92, en fait depuis 72, on a essayé de co-construire une histoire collective. Principe développement durable, convention cadre, ANCO. Et en 2002, je crois, ou 12, pardon, on a fait les 20 ans du sommet de la Terre, d'un des sommets de la Terre qui avait donné lieu à la définition du développement durable, qui est d'ailleurs mal traduit, était développement soutenable.
Mais admettons, oui.
Nous, on a fait un contre-manifeste, parce que j'y étais, bien sûr, parce que j'étais même à la première. Ils ont encore sorti un magnifique document en disant le futur que nous voulons. Et là, moi, j'ai envie de dire, attention, si les gens qui vont faire de la prospective, alors nous, on en fait tous les jours, mais on fait de la prospective dans le cambouis, qui vont faire de la prospective pour me dire le futur que nous voulons, attention les enfants, là, parce qu'on a déjà fait ça pas mal de fois.
Ouais, ça fait ça 50 ans qu'on parle du futur qu'on veut.
Ça énerve un peu
veut.
Tout le monde. Ouais. Et nous, on a fait un contre-manifeste en 2012 qui s'appelle « Le futur que nous faisons et on a barré voulons ». Parce que ça, moi, je ne peux pas raconter à des gamins et à mes enfants, leur dire « Les gars, les enfants, là, on veut ». C'est comme on a entendu récemment encore des phrases là en disant « Maintenant, on compte sur vous, les jeunes, pour… »
Mais oui, Antonio Guterres qui dit alors bon, je le cite, je me permets de le faire, qui reçoit les jeunes à la COI, en fait, la COP des jeunes, la conférence des jeunes, et qui dit… oui, les jeunes, on compte sur vous pour le monde que nous voulons.
Et alors, là, pour le coup, je vais presque prendre sa défense.
Ah.
Non, mais pas sa défense, parce que je ne me permets pas de juger, parce que, enfin, si, bien sûr, on a des jugements sur plein de choses, mais là, en l'occurrence, j'essaie toujours d'être modeste dans l'expression. Moi, je le vois, je fais à peu près 15 000 interventions par jour, tu en as vu certaines, c'est juste, il faut être sportif quand même, et on va d'un sujet à l'autre. Donc, je ne pense pas qu'il a dit ça. Je sais qu'il l'a dit, mais je ne pense pas qu'il voulait dire ça. Je pense que c'est un monsieur terriblement engagé.
Et pas assez sportif, donc.
Non, non, je pense qu'il a une vie assez compliquée. Non,
donc je rappelle un secrétaire général des Nations Unies. Hein.
Et il nous entendra, et comme ça, il pourra tweeter sur nous, Énergie 2050. Non, en fait, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que on comptait sur leur mobilisation pour co-construire. Bien sûr qu'on est dans un constat d'échec. Quel est l'imbécile qui peut ne pas le voir? Donc quand il a dit ça, ce n'était pas pour dire « les gars, faites-le pour nous pour qu'on vive bien notre vieillesse ». Non, non. Ce qu'il voulait dire, c'est que vous êtes partie prenante et bien sûr, vous n'avez pas les rênes du pouvoir. Bien sûr, c'est une réalité. Ce gars-là, ce qu'il a voulu dire, c'est une évidence, c'était « vous devez être partie prenante ». Voilà. Et pour revenir donc à cette prospective, nous, moi, je pense qu'elle est très importante. Mais il faut qu'on pose les beaux mots. Faisons. Il ne faut pas que ce soit une colère. Il ne faut pas que ce soit un contre. Il ne faut pas que ce soit un non-proposition, comme aujourd'hui, ou des propositions bisounours, parce que demain, on n'aura plus les problèmes d'aujourd'hui et qu'on va tous enfin s'aimer. Ça ne tient pas la route, ça. Aujourd'hui, les gens sont en colère, mais la plupart des gens qui sont en colère ne sont pas dans le collectif. Ils sont sur des revendications très personnelles, individuelles, et ils arrivent à confronter des colères parce qu'ils les additionnent. Mais quand est-ce qu'on aura une définition du collectif de ce que c'est qu'à mieux vivre ensemble? Et cette base du travail qui va être dans le cambouis, et je le redis, pour moi, il est honorable, pas le cambouis fossile, le cambouis de la réalité, du terrain, des gens qui sont sur le terrain. Et donc, quand on fait de la prospective, on l'adosse à du réel. Et ce réel, par exemple, on ne peut pas, ne veut pas discuter avec des gens qui ne partageront pas notre préambule, j'ai envie de dire, de bienveillance. On ne peut pas avoir un discours où il y a une différenciation sur des réalités nationales, d'ethnie ou autres, qui n'ont pas de sens. Et quand on parle de la pluri-approche de l'humanité, on ne veut pas que ce soit basé sur la culture, on veut que ce soit basé sur un respect réel d'un destin commun. Mais ce destin commun doit être adossé à des faiseurs, des gens qui sont des porteurs de ce sens. Et là, on est tout à fait enchanté de travailler autant avec l'entrepreneuriat. Nous-mêmes, on a d'autres activités entrepreneuriales avec des structures qu'on a créées ou co-créées en Afrique ou en France, parce qu'il faut l'entrepreneuriat. C'est ce que nous, à Énergie 2050, on appelle les pépites, parce qu'il y a des gens qui apportent des solutions, des pépites, c'est formidable, et il en faut. Et ces gens-là sont tout aussi importants que des gens qui vont faire du politique, tout aussi complémentaires, mais pas au service d'eux ou en réciprocité d'eux ou en redevance d'eux. Dans les deux sens, il y a une redevabilité. Et moi, le citoyen, il nous intéresse dès lors qu'il est en capacité d'ouvrir un peu son émotion, mais pas quand il voit deux migrants qui meurent ou quand il voit quelqu'un qui n'a pas d'accès à l'énergie, qui vit dans une case difficile ou qui a une terre aride et qui essaie de cultiver. Par exemple, nous, on travaille sur le genre. On a eu plusieurs prix internationaux sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique. On a eu des prix des Nations Unies sur les Human Settlements Awards. Donc, on est vraiment très reconnus, même si on n'a pas le temps de communiquer sur notre sujet. Mais nous, par exemple, quand on travaille avec les femmes, que ce soit en Afrique ou ailleurs, on n'est pas là pour essayer de dire il faut pleurer parce qu'une femme s'est fait battre. C'est dramatique qu'une femme se fasse battre encore au XXIe siècle, mais c'est dramatique qu'une femme s'est fait battre même dans les précédentes décennies. C'est juste une absurdité. Mais bon, mais quand on a ça, et bien on va devoir travailler à créer de la réalité. Ça veut dire quoi? Dans les pays en développement, est-ce que la femme a accès au foncier? Est-ce que la femme a accès à la création d'une chaîne de valeur qui va faire qu'elle peut créer une réelle indépendance? Et donc, on travaille avec des associations de femmes qui vont créer de l'entrepreneuriat, avec des personnes qui vont créer de la transformation de filières, au lieu de dire on doit les aider à vendre leurs petits trucs sur le marché. Mais non, elles doivent le transformer pour ne pas donner quelque chose qui vaut zéro cents d'euros ou de francs CFA ou de je ne sais pas trop quoi, et qu'elles vont le vendre à des gens qui vont... Donc, c'est ça, changer de paradigme. Et dans nos pays, par contre, on a un autre discours. On revient toujours à la systémie. Je ne comprends pas que dans nos pays, prenons l'exemple de la France ou ailleurs, on ne fasse pas du pénal fort. Quelqu'un qui tape ou qui fait un féminicide, c'est du pénal. Si la faute est lourde, les gens arrêteront. On ne peut pas dire téléphoner à un numéro spécial parce qu'on voit une femme en danger. Le gars qui tabasse une femme, c'est 30 ans de pénal et on arrête de discuter. Et on règle des problèmes. On ne peut pas continuer à avoir des problèmes qu'on décale dans le temps parce qu'on ne veut pas les solutions. Voilà. Donc, c'est toujours notre vision.
Sur justement cette systémique, c'est aussi ce qu'on retrouve dans le Call for Actions du Global Economy Global Positive Forum. On parle d'éducation, de climat, d'alimentation, d'épargne. Donc, voilà, on est à 360 degrés. Avec ton recul, est-ce que tu as le sentiment tout de même que l'approche transversale de dire on ne peut pas travailler, par exemple, sur des filières de transformation par des entrepreneuses femmes sans travailler la question de l'accès au foncier, enfin, tu l'évoquais un peu, et ça évolue de plus en plus. Les acteurs sont prêts à entendre que pour bouger un pion, il faut en bouger plein d'autres pour que ça soit cohérent et pérenne.
Je pense que oui. Alors bien sûr, cette approche, c'est notre genèse. Bien sûr que ça bouge, ça reste souvent encore un peu théorique pour beaucoup d'acteurs, mais il y a des acteurs qui bougent réellement. On les voit, tous les principes d'économie circulaire ou autre, il y a vraiment des faiseurs réels avec des solutions qui marchent, qui ont une rationalité économique, parce que j'insiste, tout ce que l'on dit, ça a une rationalité économique, clairement, parce qu'un projet qui a du sens aura toujours une rationalité économique. Et si on n'arrive pas à le faire, il y aura des mécanismes pour l'accompagner à ce qu'il démarre et qu'il devienne un mécanisme économique. Et bien sûr, c'est important, et il faut, de toute la manière, intégrer cette transversalité, c'est notre genèse. mais il faut que les gens l'intègrent avec des faiseurs pour que des gens leur apportent et témoignent. Mais pas des faiseurs qui vont eux-mêmes rester sur un micro-sujet en pensant que ce périmètre est bon, parce que même sur leur micro-sujet, une pépite dans un cadre, c'est comme si on avait un petit diamant, mais il doit être monté un diamant pour être porté, je le rappelle. Et donc un diamant, alors c'est un mauvais exemple parce qu'il a souvent des impacts très négatifs. Je veux dire une pépite d'un diamant artificiel, ouais. Ou en plastique, alors pas en plastique, mais allez, en bois, j'y arriverai pas. Mais quelque chose qui n'a pas d'impact carbone, il n'a pas surtout humain ou environnemental, ben, il va devoir être monté. Donc un bijou, quand même, il aura un sens en France, en Allemagne, ou au Canada, ou au Chili, ou en Colombie. Il n'aura peut-être pas le même sens au Liberia, au Lesotho ou ailleurs. Donc, à un moment donné, nous, c'est nous les monteurs. Donc, nous, on a des pépites, on en fabrique, on a des gens qui ont des pépites pour nous, mais il faut qu'ils intègrent ces processus-là, des gens comme nous qui vont être capables de monter le bijou au bon endroit. Sinon, il ne sera pas porté, il aura juste un sens de prospective.
Pour finir, j'aimerais que tu fasses un vœu pour 2050. Avec tout ce qu'on a dit, évidemment, qu'il faut faire, poser les marches pour aller vers cet horizon, mais un vœu.
Eh bien, qu'on fasse l'ouverture en 2050 de la session des Nations Unies, et je parle d'énergie 2050, qui aura enlevé 50 d'ici là, et qu'on explique que finalement, on est bien content parce que tout le monde a été au rendez-vous de notre vision. Voilà, ça c'est sympa, non, parce que je fais notre storytelling à nous, mais au-delà de ça, ce serait quand même assez sympa qu'à la limite, en 2050, moi je ne serai plus là, j'imagine, il y a fort à parier, mais qu'à minima, on puisse se retourner en disant on a été entendu et que surtout les gens comprennent que nous n'avons pas été, sans aucune connotation religieuse, des prêcheurs dans le vide, mais des prêcheurs de bon sens et que finalement, ça valait le coup.
Très bien, merci.
En descriptif de l'épisode, je vous glisse les liens vers les sites internet d'Énergie 2050, vers son guide des négociations, qui me sert un peu de bible ces jours-ci, je vous l'avoue, et vers l'Institut de l'économie positive. Cette conversation était très éclairante, notamment sur les issues possibles de cette COP25. Rendez-vous le 13 décembre pour constater les engagements qui seront pris ou non. Éclairante aussi pour mieux regarder vers 2050. Se positionner dans le long terme, oui, c'est indispensable, si cet exercice de l'esprit s'accompagne d'un ancrage fort dans le réel et dans le présent pour creuser un nouveau sillon, pour réorienter le gouvernail, pour enlever les œillères et dès lors trouver ou retrouver une vision globale. Pensons loin, agissons ici. Si comme moi, vous avez appris au fil de cette conversation, n'hésitez pas à partager, commenter, recommander cet épisode de Hashtag 2050 le podcast. Par mail auprès de vos proches, sur les réseaux sociaux, à la machine à café, au coin du feu, dans cette grande salle de réunion, au parc, partout où vous avez envie de construire le monde qui vient. Nous nous retrouvons très vite pour continuer à décrypter la COP25. D'ici là, soyons toujours curieux.